7h25 minutes. On va faire le tour, évidemment, d'un certain nombre de sujets reliés à la COVID. D'abord, les nouveaux chiffres qu'on a vus hier, la tendance qu'on peut observer, la pression sur le réseau de la santé et aussi les vaccins. On a quand même quelques données qui se sont ajoutées depuis quelques jours. Le Dr Carl Weiss est avec nous. Dr Weiss, bonjour.
Bonjour, M. Arcand.
D'abord, quand vous regardez les chiffres depuis quelques jours, est-ce qu'on peut dire, comme le gouvernement l'affirme, que la situation est sous contrôle?
Ben, je pense, écoutez, que la réponse est oui, pour être direct. Ça fait déjà maintenant plus de 5 semaines qu'on se retrouve dans cette fourchette de chiffres. Il faut savoir qu'il y a des journées qu'on teste plus que d'autres. Il y a des journées au Québec, une journée faible, on fait 19 000 tests, disons à peu près. Une bonne journée, on peut en faire jusqu'à 30 000, 31 000. Alors, les journées où on en fait 31 000, ben, des fois, on a un peu plus de positifs, c'est normal. Donc, on reste toujours dans cette même fourchette. La seule chose que je vous dirais, c'est qu'on n'a toujours pas commencé à descendre du plateau. On est sur ce plateau maintenant depuis longtemps. Toutes les mesures qui sont mises en place, finalement, ce qu'elles font, c'est qu'elles empêchent finalement de décrocher et d'avoir un nombre, une augmentation très importante du nombre. Donc, ça nous garde sur ce plateau-là. Si on coupait, si vous voulez, entre guillemets, notre discipline, à un moment donné, ça pourrait flamber très, très rapidement. Et c'est ce qui nous permet de garder un certain contrôle, par exemple, par rapport à des pays en Europe où avec des populations similaires, où on voit des chiffres qui sont 4 fois, 8 fois ce qu'on a au Québec.
Je vous écoute là et je me dis, bon, on a déjà des mesures de restriction. Il y a une certaine activité commerciale, scolaire qui continue, très bien. Mais ça veut dire que ça risque pas de descendre rapidement, subitement. Ce plateau peut durer encore longtemps.
Tout à fait. Et si on perd notre, je dirais, une certaine discipline, ou s'il y a des mouvements à un moment donné de foule, entre guillemets, c'est-à-dire si les gens, avant la période des fêtes, s'organisent des parties de Noël clandestins, s'il y a des exagérations au niveau des rassemblements dans certains groupes de population, ça peut être des vecteurs pour des éclosions. On a aussi regardé pour l'instant un relativement bon contrôle de ce qui se passait dans les CHSLD, les résidences pour personnes âgées. Oui, il y a des éclosions dans certains points. Très souvent aussi, il ne faut pas l'oublier, qui peuvent être amenés soit par les travailleurs de la santé qui le savent pas à l'occasion, ils sont asymptomatiques, ou par des visiteurs. Il ne faut pas oublier que parmi les familles aussi, les proches aidants, sans le savoir également, ces gens-là peuvent être asymptomatiques. Donc, on est dans une zone fragile, mais une zone qui, pour l'instant, je vous dirais, tient le coup. On n'est pas en train de se détériorer de façon importante. Et ça, je pense qu'il faut le souligner.
Bon, et la question qui suit, évidemment, ça concerne l'impact sur le réseau de la santé. Chaque année, c'est une période, là, décembre, janvier, où il y a une pression, je dirais presque naturelle, là, qui s'exerce. On sait qu'on va réduire aussi un certain nombre d'activités. Est-ce que vous êtes inquiet pour le réseau à partir du retour de ce congé des fêtes?
Ça va dépendre du comportement, encore une fois, des Québécois et de ce que les gens vont faire et de comment les gens vont se comporter. Si les gens se comportent de façon correcte et adéquate, non. Mais j'ai l'impression qu'on va devoir payer un petit prix, c'est-à-dire que on va avoir cette période de grâce, on va dire, disons-le, mais il va falloir payer l'addition un petit peu au mois de janvier. La question, c'est est-ce que l'addition qui va être payée en vaudra la chandelle et que le nombre de cas qui risque d'augmenter va être sous contrôle et à l'intérieur de ce contrôle-là, ben, on pourra probablement donner aux Québécois un cadeau de quelques jours durant la période de Noël. Donc, c'est clair qu'il y a un risque qui est pris, il y a un risque qui va être encouru en faisant ce genre de choses-là, mais c'est un support collectif, une action collective, ça va être une conscientisation collective qui va nous permettre de passer au travers ou pas.
Maintenant, parlons des vaccins. Il y en a 3, il risque d'en avoir d'autres, évidemment. Beaucoup d'auditeurs là, se disent, comment ça se fait, on a eu le chiffre hier, là, que d'ici la fin mars, seulement 3 millions de Canadiens pourront être vaccinés. Aux États-Unis, on pense qu'on va compléter l'opération, dit-on, au cours peut-être même fin juin, début juillet, et que le Mexique va recevoir des vaccins avant nous. Là, on a de la misère à saisir ça.
Bon, alors il y a plusieurs points. Le premier point qu'il faut souligner, on parle d'un vaccin qui n'a même pas encore été homologué.
C'est vrai.
Mes collègues aux États-Unis, mes collègues spécialistes en maladies infectieuses et même la Société américaine de maladies infectieuses a dit qu'avant d'homologuer un vaccin, on aimerait avoir toutes les données et pas seulement des communiqués de presse. Et je pense que c'est un point important à souligner. On aimerait avoir des communiqués de presse. Il n'y a rien qui a été encore publié pour ces vaccins. Je ne mets pas du tout en doute la validité de ces vaccins, mais il faut qu'on ait des publications scientifiques. C'est jamais arrivé dans l'histoire qu'on a mis et homologué un vaccin sans avoir aucune publication scientifique, révisée, etc. Alors, ça devrait arriver, mais il faut quand même le souligner et pas oublier que c'est une condition sine qua non pour que le public soit confiant dans la capacité du vaccin à faire son travail et dans sa sécurité. La deuxième chose, c'est que le vaccin, évidemment, va être produit aux États-Unis, et c'est normal et attendu jusqu'à un certain point, que les pays qui le produisent vont vouloir le donner à eux-mêmes. C'est-à-dire, nous, on aura le vaccin un peu plus tard, mais on est chanceux, il faut pas oublier, par rapport à peut-être beaucoup de pays sur la planète qui risquent d'avoir ces vaccins-là beaucoup, beaucoup plus tard, parce que nous sommes le voisin des États-Unis, nous avons une très bonne relation avec nos voisins du Sud, on l'a vu avec les masques N95, les Américains ont accès de nous en envoyer quand c'était nécessaire. Mais qu'est-ce que vous voulez? La capacité de production des États-Unis, même si elle est immense, à son début, va être pour les Américains. Et ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je vous dirais par contre que, puis je le dis, puis je pense que c'est important de le souligner, c'est quelque chose de personnel, c'est un nouveau vaccin. Je suis pas totalement, je vous dirais, fâché de voir que d'autres personnes vont le recevoir avant nous. Parce que, et même si j'ai pas de doute important sur la capacité et la sécurité du vaccin, mais si 15, 20, 30 millions de personnes dans le monde reçoivent le vaccin avant qu'il soit disponible au Canada, on va vraiment tester le vaccin sur sa sécurité à large échelle dans une population autre. Et à ce moment-là, les études qui sont peut-être un peu manquantes actuellement, qui sont ce qu'on appelle des études de phase 4, c'est-à-dire après que le vaccin soit commercialisé, vont peut-être répondre à certaines de nos questions. Donc, moi, je suis pas tellement inquiet du fait qu'on aura le vaccin quelque part au mois de mars. En fait, je suis même un petit peu rassuré jusqu'à un certain point parce que à ce moment-là, on permettra d'avoir plus de données sur le vaccin d'ici là.
On sait que, de toute façon, les doses seront en quantité limitée, contrôlée au départ, et qu'on va devoir prioriser. Et là, j'entends depuis quelques jours toutes sortes de théories. Bon, on comprend qu'il faut vacciner les gens du réseau de la santé, les gens de première ligne. Il faut vacciner les gens peut-être les plus vulnérables. Mais je vous pose une question, là, puis je veux pas en faire un débat éthique, mais si on décide de vacciner des gens vulnérables dans, par exemple, un centre de soins de longue durée, est-ce qu'on donne un vaccin à quelqu'un qui a 90 ans, 92 ans? Est-ce que ça devient un critère? Est-ce qu'on le donne à quelqu'un qui est plus jeune, qui est moins hypothéqué? Comment on peut, ou si on le fait à partir de critères très larges et on vaccine tout le monde?
Bon, écoutez, l'idée, c'est qu'il va falloir vacciner tout le monde. Donc, le résultat final, ça va être la vaccination universelle de la population. Ouais. Évidemment, c'est pas obligatoire, mais c'est l'objectif de vacciner le plus de monde possible au Québec. Deuxièmement, c'est de se dire, qu'est-ce qu'on veut sauver en premier? Donc, habituellement, ce qu'on veut regarder, c'est l'impact sur la mortalité, qui est à risque de mourir, et l'impact sur l'utilisation intensive des soins, c'est-à-dire qui on risque d'hospitaliser avec des problèmes importants. Ce qu'on sait, c'est que le facteur le plus important actuellement de complications ou de mortalité, c'est l'âge. Donc, si vous dites, je vaccine les gens dans les CHSLT, dans les centres de soins prolongés, au Québec, là, c'est quasiment, on peut arrondir ça, c'est malheureusement 7000 Québécois qui sont morts depuis le début de la pandémie. Plus de 97% d'entre eux ont 60 ans et plus. Alors, ce que je veux dire, c'est que le groupe à vacciner, si on veut baisser la mortalité, c'est les personnes âgées. Le groupe à vacciner, si on veut éviter que les gens se rendent à l'hôpital, on les hospitalise, c'est aussi ce groupe-là des personnes âgées, donc les gens de plus de 70 ans, parce qu'on sait que l'augmentation de l'hospitalisation intervient beaucoup après l'âge de 70 ans. Et à ce moment-là, c'est ces groupes-là qu'on devrait probablement vacciner en premier. Alors, on peut, oui, poser des questions d'éthique, etc. Parce que si on diminue la mortalité, si on diminue les gens qu'on va envoyer à l'hôpital, ben, l'hôpital, il faut pas oublier que beaucoup de ce qu'on fait actuellement, c'est pour garder en place un système hospitalier qui soit capable d'absorber ces gens-là et de continuer à fonctionner. Parce que si c'était une maladie, disons comme un autre coronavirus, un simple rhume pour tout le monde, hein, parce qu'il y a des rhumes qui sont causés par les coronavirus, ben, on continuerait de fonctionner en société comme on le fait habituellement, parce qu'on dirait, bon, ben, tout le monde ferait son rhume et puis ça s'arrête là. Mais là, à cause de l'impact sur le système hospitalier, les gens se disent c'est probablement le groupe à cibler.
Merci beaucoup, Dr. Weiss, comme à l'habitude. Bonne journée.
Vous aussi.
Merci, Dr. Carl Weiss, microbiologiste et infectiologue à l'Hôpital général juif de Montréal. Il est 7h36.